Bienvenue sur les chemins du vendredi qui donnent chaque semaine la parole à ceux qui ont fait de la philosophie leur métier. Mais être philosophe, est-ce un métier? Est-ce une vocation? Pourquoi aucun philosophe ne s'accorde sur la définition de la philosophie? Et quel rôle les philosophes doivent-ils jouer dans la cité? Mon invité aujourd'hui a rencontré la philosophie par les mathématiques. Il a travaillé sur la logique formelle, la philosophie arabe, l'art de la conversation et Alice au pays des merveilles. Il s'appelle Ali Ben Makhlouf. Et nous allons passer 50 minutes en sa compagnie. Quel plaisir! Bonjour Ali Ben Makhlouf.
Bonjour.
Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Quel plaisir de commencer la journée et l'émission avec Nina Simone. C'est votre choix cette chanson?
Oui.
Pourquoi?
Elle parle d'amour, c'est l'amour qui porte dans la vie.
Et uniquement parce qu'elle parle d'amour, parce qu'on a
non, parce que son destin est extraordinaire, qui me fait toujours, on va dire vibrer, quiver, et do I move you, voilà. Je suis tout le temps accompagné par ses chansons, par la force de sa personnalité, par l'opacité de sa vie, voilà.
Elle vous inspire.
Oui, on peut dire ça.
Je vous ai présenté comme philosophe, Ali Ben Makhlouf. Comment vous présentez-vous?
Professeur de philosophie, ça c'est sûr. Philosophe arétique, ça met 20 ans comme imposture à passer. Alors je ne sais pas. Le paraît-il, c'est Étienne Balibar qui m'a dit ça un jour. Ali, la philo, c'est 20 ans d'imposture. Ça met 20 ans à passer comme imposture. Et au Maroc, il y a une expression construite à partir de philosophe pour dire « il philosophe », mais c'est comme si on disait « il surphilosophe » et c'est hyper péjoratif. Donc voilà, c'est un contexte qui va pas de soi entre l'imposture et le sous ou le surdimensionné.
Donc il n'y a pas de définition positive de la philosophie?
Ça se reconnaît quand même. Ça se définit peut-être pas facilement, mais ça se reconnaît. Ça se reconnaît à quand même, comme le disaient les anciens, un mode de vie, à des constructions conceptuelles, aux deux à la fois, parce qu'il ne faut pas séparer ce qu'on a appelé les exercices spirituels de la construction conceptuelle. Et ben, quand on a une vie remplie de concepts, si je puis dire, et d'une manière d'agir, et d'une manière de faire, d'une manière de douter, de penser pour douter, non pas douter pour penser, et des choses comme ça, voilà.
Ça se reconnaît, vous dites, vous pensez qu'on reconnaît un philosophe quand on en voit un?
Physiquement, je sais pas, il y a Wittgenstein, il dit que tout se voit sur le visage. Alors bon, peut-être que les médecins avec qui je travaille disent qu'il y a 30 000 micro-expressions. Alors je sais pas si la philosophie transparaît dans les micro-expressions du visage, mais bon.
Vous vous souvenez de votre première rencontre avec la philosophie?
Oui, bien sûr, la terminale. J'ai eu feu Jean-Pierre Cometti au lycée français du Maroc. Et j'étais pas bon. Je faisais un bac C, je n'ai pas compris la démarche philosophique du tout. Non, il a fait l'esthétique transcendantale pendant 6 mois en terminale.
Un peu dur pour un
programme voilà, terminale. Et puis bon, bah, on était dans les clichés, c'est-à-dire qu'il y avait plein de gens qui faisaient leurs exercices de maths pendant la classe de philo, et lui essayait de faire passer cela, moi j'essayais de m'accrocher, mais jamais compris le temps et l'espace a priori en terminale, mais il a répété pendant 6 mois. Et puis après, il est passé de Kant à Comte. Bon, c'était un peu plus facile, mais je crois que j'ai commencé un peu à comprendre des petites choses en avril-mai, juste avant l'examen. Et c'était ma première rencontre, c'est-à-dire une rencontre moyennement ratée, on va dire. Ouais.
Et après le bac, vous avez décidé
après l'hypocagne et la cagne, j'ai rencontré des philosophies incarné par Monique David-Ménard et Bussy Glucksmann en Cagne, des femmes donc. Et j'ai fait des choses qui ne se rapportent pas du tout ni à la psychanalyse ni à la philosophie politique. Alors allez savoir comment la transmission
passe. Alors que la première
passe.
Est psychanalyste et la seconde spécialiste de philosophie politique.
Voilà, et d'esthétique. J'ai fait ni de l'esthétique, ni de la philosophie politique, ni de la psychanalyse. Et c'est les miracles de la transmission, je ne sais pas.
Et à quel moment avez-vous décidé d'en faire votre métier, de devenir prof de philo?
Je crois que je me suis dit, après l'hypocagne Lacan, je me suis dit, il me reste cette rencontre magnifique avec les mathématiques et ça restait un manque et donc j'ai continué après à m'inscrire en licence de philo, mais j'ai tout de suite voulu faire de la logique et donc j'ai fait de la logique mathématique et j'ai compris que ça pouvait aller ensemble et j'ai retrouvé en fait le premier déclic quand vous m'avez dit comment vous avez rencontré la philo, je vais vous le dire. C'est la combinaison de la découverte des espaces vectoriels et de Mallarmé, le vierge, le vivace et le bel aujourd'hui. Oui, les deux à la fois. Le fait qu'une langue fonctionne d'une manière extraordinairement... fonctionne, qu'il y ait une fonctionnalité de la langue et qu'il y ait une fonctionnalité des mathématiques. Ce sont les fonctionnalités qui m'ont mis en philosophie. Et les espaces vectoriels, c'était la découverte de l'abstraction et que c'est une abstraction fonctionnelle, c'est pas une abstraction stérile, c'est une abstraction qui débouche sur des choses. Les vecteurs, c'était extraordinaire. En seconde. Et à côté de ça, eh bien, la fonctionnalité de la langue. Et puis, j'ai commencé à beaucoup aimer la langue française en seconde au Maroc. Parce qu'il faut savoir que jusqu'à 10 ans, je ne savais pas faire une phrase correcte en français. Et donc, la
vous parliez quelle langue?
L'arabe, bien sûr. Et jusqu'en seconde, c'était pénible, les exercices scolaires. J'y arrivais pas. Ça, maintenant, quand on veut que les gens réussissent tout de suite, dès la maternelle, dès le primaire. D'abord, je dois vous dire qu'en primaire, j'étais un cancre. C'est quand même très important. Je faisais que de l'arabe et j'étais un cancre parce qu'on nous battait en cours. Et pour moi, l'école où on vous bat, c'est pas une école. Et donc, je supportais pas du tout. J'allais en classe, mais en me disant, mais quel malheur d'aller en classe. Ça a changé après au collège, mais je découvrais la langue française, c'était pénible. Et puis, il y a eu le déclic. En seconde, il y a eu un déclic. Et pour le français, et pour les mathématiques. Et je crois que la philosophie était dans les deux, était dans Mallarmé, dans les espaces vectoriels.
Et pourquoi êtes-vous venu en France? Pour faire vos études?
C'est l'épopée des familles bourgeoises au Maroc. Bon, on a la chance, c'est vrai, de pouvoir faire des études à 2000 kilomètres parce que la France a la tradition d'avoir de bonnes universités, etc. Mes sœurs avaient fait leurs études en France. Bon, j'ai suivi le chemin. Et puis j'ai eu une chance extraordinaire, c'est que mes parents m'aient fait confiance parce que ils se sont fait gronder par toute la famille bourgeoise en leur disant vous envoyez votre fils au chômage tout en lui payant des études, avec la philo il va rien faire, il faut faire ingénieur, il est bon en maths, enfin c'est ça qu'il faut faire, il peut intégrer une très bonne école en France d'ingénieur. Ah, ils ont dit nous on fait confiance à notre fils. Et à chaque fois que je me rappelle cette phrase, j'ai beaucoup d'émotions.
Et c'est pour ça que vous avez commencé par étudier la philosophie de la logique?
Oui, la logique, effectivement, c'était donc la reprise de ces mathématiques que j'ai beaucoup aimées. Il faut vous dire que je suis venu en France pas pour faire de la philo, puisque c'était un peu raté en terminale. Donc je suis venu en France pour faire lettres ou histoire. Et je me suis retrouvé en philo. Ben voilà, c'est ça. Je crois aux contingences, vous savez, je crois en aucune destinée. Je crois qu'aux contingences.
Il y a quelqu'un qui a une question à vous poser, ou plutôt on a posé une question à un philosophe, et voici sa réponse.
Lord Russell, what is philosophy? Well, that's a very controversial question. I think no two philosophers will give you the same answer. My own view would be that philosophy consists of speculations about matters where exact knowledge is not yet possible. But that will only be my answer, not anybody else's.
Et oui, pour certains, la philosophie est tellement étrangère que même parler de philosophie donne l'impression qu'on parle une langue étrangère, ce qui est le cas ici, puisque vous venez d'entendre Bertrand Russell en 1960, à qui l'on pose la question « Mais qu'est-ce que la philosophie ?» Il répond « Bien, c'est une question très controversée. Aucun philosophe ne vous répondrait de la même manière. Selon moi, la philosophie consiste à spéculer sur des sujets qu'il n'est pas encore possible de connaître avec exactitude, mais c'est ma réponse et pas celle d'un autre. »
Ah oui, c'est cela, effectivement, c'est ce qu'il dit. Il dit que les sciences s'occupent de ce que l'on dit être vrai, alors que les philosophies s'occupent de ce qui peut être vrai, et donc c'est des contrées qu'on découvre, et non pas des situations que l'on formule ou énonce comme étant des vérités. Mais on est toujours dans la découverte de nouvelles contrées, et donc c'est la possibilité de la vérité plutôt que la vérité, la philosophie. Et c'est vrai que dans cet extrait, il dit quelque chose de très important, c'est une compréhension du monde. Et moi, c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans la méthode scientifique avec Frege, avec Russell, c'est que la philosophie soit liée à ce que l'on peut comprendre du monde. Et on peut comprendre précisément du monde en faisant référence à des situations descriptibles. Et ce n'est pas du tout un enfermement dans le langage, ce n'est pas du tout de la dentelle sur le langage. Le langage réfère à quelque chose. Et aussi, ce qu'il dit là, Russell, et je suis tout à fait d'accord, ce n'est pas du tout l'orientation du désir ou voilà, c'est véritablement comprendre le monde et non pas projeter sur le monde ses désirs.
Mais la philosophie, vous aide à comprendre le monde ?
Ah,
ou ça, c'est la science ?
Non, justement, parce que pour moi, une fois que je vous ai dit que les espaces vectoriels et Mallarmé pouvaient aller ensemble, j'ai jamais fait de division dans ma tête. Et donc, précisément, je vois de la philosophie en logique, je vois de la philosophie maintenant dans les sciences de la vie et de la santé que je travaille depuis plus de 10 ans. Et vous savez, la phrase célèbre de Canguilhem, pour la philosophie, toute bonne matière est étrangère, toute matière étrangère est bonne. Ben ça, je trouve qu'il a vraiment tout dit de ce point de vue-là. La philosophie est toujours en relation avec un autre domaine du savoir. Sinon, tourner sur elle-même, vis-à-vis d'elle-même, c'est intéressant pour engranger un peu de savoir sur l'histoire de la philosophie, mais il y a un certain moment où elle s'arrime à des domaines de savoir relatifs à ce qui se passe dans le monde.
De fait, vous avez travaillé sur des sujets très différents, Ali Ben Makhlou. Vous êtes aujourd'hui professeur de philosophie à l'Université de Paris-Est Créteil, membre senior de l'Institut universitaire de France. Vous avez écrit, je l'ai dit, sur la philosophie de la logique, Russell, vocabulaire de Frege, la raison, la question des limites. Vous avez écrit sur Montaigne, vous avez écrit sur Averroès, vous avez fait un vocabulaire d'Averroès, vous avez écrit un livre qui s'appelle « Pourquoi lire les philosophes arabes », vous avez écrit sur l'identité, vous avez écrit sur Montaigne, vous avez écrit sur la conversation. Ça fait énormément de sujets.
Pour moi, c'est le même sujet.
Et c'est lequel ?
C'est le aborder avec rigueur, logique, des questions relatives à ce que l'on peut savoir du monde. Et donc, vous avez mentionné les philosophes arabes, ils étaient logiciens et médecins. Donc moi, quand j'ai découvert les sciences de la vie et de la santé, j'y ai appliqué mon souci de la grammaire, mon souci de la logique, et c'est ainsi que j'ai pu rendre 3 avis à l'Assemblée nationale, au Comité consultatif national d'éthique, avec professeur néphrologue Bertrand Veil, Marie-Germaine Bousser, la neurologue Marie-Germaine Bousser, et le neurologue Yves Agide. Et j'ai beaucoup appris par eux, et pour moi, vraiment, j'exerçais la philosophie dans une complémentarité des disciplines.
Et c'était un passage obligé pour vous de vous intéresser à la philosophie arabe, ou c'était un réel centre d'intérêt ?
Non, parce que, non, alors quand je vous dis que c'était tout, j'ai l'impression d'avoir fait toujours la même chose, c'est que Frege et Russell, c'était la logique mathématique qui démarre à la fin du 19e siècle, pour faire très bref, et ils étaient en dialogue avec la logique aristotélicienne qu'ils écartaient pour une bonne part. En tous les cas, ils étaient en dialogue avec cette logique aristotélicienne. Mais cette logique aristotélicienne, elle a été portée acceptée pendant 7 siècles par les philosophes arabes, que moi je lis dans le texte. Et donc, en fait, j'ai connecté mon intérêt pour Frege Russell à l'histoire de la logique avec laquelle ils dialoguaient. Et ils ont dialogué avec Aristote, bien évidemment. Il est cité, les modes d'inférence, le syllogisme sont cités au début de l'idéographie de Frege. Et donc, véritablement, pour moi, c'était simplement apporter un complément à ce que j'ai développé en logique mathématique en la faisant dialoguer avec l'histoire de la logique. Mmh. Et l'histoire de la logique, c'était l'organon arabe que j'ai traduit en partie, que je continue à traduire. Donc pour moi, la philosophie, c'est pas la philosophie arabe ou la philosophie allemande ou britannique, allemande avec Frege, britannique avec Russell ou arabe avec Averroès, c'est la logique. Ouais. Qui se trouve être formulé par un Allemand, par un Britannique ou par un Arabe. Mais c'est pas du tout.
C'est secondaire.
Ah, complètement secondaire. Complètement secondaire. Complètement secondaire. Et il est vrai que par moments, on me dit, mais entre Frege et Averroès, qu'est-ce que vous faites? Bon, je réponds parfois un petit peu comme ça et je me dis, si c'est pas visible, bah tant pis. Hein. Mm. Si c'est pas visible, qu'il y a véritablement une continuité entre la logique formelle et le dialogue qu'elle a eu avec la logique aristotélicienne.
Mais parce que c'est un pan de la philosophie qui est très peu enseigné et étudié en France, qu'on appelle maladroitement sans doute la philosophie arabe, l'héritage.
Oui.
Le fait que notre héritage de philosophie antique ait pu passer par des philosophes arabes avant de revenir sur le continent, en tout cas en France, est quelque chose qui est occulté.
C'est vrai. Alors, je me suis intéressé à la logique dans un premier temps, puis après je me suis dit, mais c'est un pan extraordinaire, parce qu'en fait, les philosophes médiévaux, et là c'est pas simplement les philosophes arabes, mais notamment les philosophes arabes, ont fait de la logique une discipline fondationnelle, et de la logique une discipline fondationnelle, je le retrouve avec le projet leibnizien continué par Frege, une logique fondationnelle, comme discipline fondationnelle. Et en fait, les affinités entre le médiéval et le contemporain sont énormes. Je ne suis pas le seul à le dire. Il y a des gens qui travaillent sur Saint Thomas et Wittgenstein. Il y a des gens qui travaillent sur Frege et Saint Thomas. Il y a des gens qui travaillent comme Alain de Libera sur Foucault et Guillaume d'Occam. Et donc, véritablement, Averroès, Frege, eh bien, ça fait tout à fait sens si on met entre parenthèses la philosophie cartésienne qui a été si dure avec la logique. La logique, c'est une belle discipline fondationnelle en philosophie. Pour moi, j'en suis convaincu, mais j'aime pas le mot conviction. J'en suis nourri et j'espère un peu incorporé, que j'ai incorporé un peu tout ça. Et parfois, j'essaie de le transmettre.
Pourquoi vous n'avez pas le mot conviction?
Conviction, j'aime pas parce que c'est un enfermement solipsiste. Je préfère la responsabilité, mais j'aime pas la conviction.
Donc, on n'est jamais convaincu par quelque chose?
Non. Pour moi, c'est un mot...
On doute ou alors on sait?
Ah oui, on doute ou bien on partage des opinions. Mais si on partage des opinions, ce n'est pas des convictions. Conviction, il y a une tentation solipsiste dans le mot conviction.
Ça nous rend seuls.
Exact.
Est-ce que vous désirez un peu plus de thé?
Comment puis-je en avoir plus puisque je n'en ai pas encore eu?
Bah justement, il est facile d'avoir plus que rien du tout.
Ah, voilà.
Est-ce que vous désirez un peu plus de thé?
J'en ai pas encore bu une goutte. Comment voulez-vous que j'en veuille un peu plus?
Justement, il est facile d'avoir plus que rien du tout. Vous en aurez fatalement plus, c'est très logique.
Je voulais seulement dire que je...
Maintenant, ma chère, j'ai l'impression que vous avez une préoccupation. Ah, voulez-vous nous dire ce qui vous ennuie?
Racontez-nous du début à la fin.
Oui, oui. Et arrêtez-vous bien à la fin. Stop.
Sur France Culture, les chemins de la philosophie, bienvenue sur les chemins du vendredi, profession philosophe aujourd'hui en compagnie du philosophe Ali Ben Makhlouf. Nous venons d'entendre un extrait d'Alice au pays des merveilles, le dessin animé de Walt Disney de 1951. C'est sur le texte de Lewis Carroll que vous avez travaillé, Ali Ben Makhlouf. Alors quel lien avec tout ce que nous venons de dire? Peut-être la logique?
La logique. La logique complètement et le ludique après tout, parce que je venais de parler de transmission. Parfois la logique passe bien par le ludique. Et donc Alice au pays des merveilles, c'est véritablement à l'usage des grands pour pouvoir introduire dans l'exercice scolaire, quand ils sont maîtres, instituteurs, conducteurs, aurait dit Montaigne, précepteurs, eh bien introduire une méthode qui fasse que l'on ne récite pas les règles de grammaire ou les théorèmes mathématiques comme des lois, mais précisément qu'on les découvre à l'occasion d'un petit doute sur la langue, comme la petite, le petit mot de plus que rien ou plus plus parce que j'ai déjà quelque chose. Mais c'est extraordinaire. Et il y a comme ça dans cet ouvrage. Vous savez, il commence... Puis-je parler un peu anglais?
Je vous en prie. Russell l'a fait avant vous.
Alice was beginning to get very tired of sitting by her sister on the bank and of having nothing to do. Once or twice, she had peeped into the book her sister was reading, but it had no pictures or conversations in it. And what is the use of a book without pictures or conversations? Et en fait, tout l'ouvrage, c'est que cette Alice va découvrir la conversation et va découvrir la conversation comme un élément de constitution, de cadre et de schéma logique, comme le schème mathématique du plus 0, 1, comme le schème de la matérialité de la langue totus, totus, principe A égale à A, oui mais totus la tortue, teach, taught us, elle nous enseigne. Et donc on ne peut pas dire, toutes les traductions ratent, parce qu'on ne peut pas dire la tortue nous enseigne. Alors moi j'aurais bien proposé le chat-chat, quelque chose comme ça pour arriver à... Et en fait on fait saisir la force matérielle de la langue, au-delà de la synonymie, vous savez que la synonymie n'est qu'un grain de sable dans la machine linguistique. Elle a été dénoncée par Quine, elle a été dénoncée par beaucoup de philosophes. Il n'y a jamais de synonymie entre les termes. Il y a toujours des occurrences linguistiques distinctes. Et Alice fait prendre conscience de cela.
Alice, vous en parlez dans un ouvrage qui s'appelle « L'identité, une fable philosophique ». C'est-à-dire que l'identité ne renvoie à aucune réalité?
Ne vous imaginez jamais ne pas être autrement que ce qui pourrait sembler aux autres, que ce que vous étiez ou auriez pu être n'était pas autrement que ce qui pourrait leur sembler avoir été autrement.
Ça, c'est du Lewis Carroll encore.
Ça, c'est du Lewis Carroll, c'est-à-dire que c'est un labyrinthe. Vous pouvez parler syntaxiquement de l'identité de manière correcte et vous fourvoyer sémantiquement. Alors, gare à ceux qui parlent de l'identité.
Mais a priori, quand je vous écoute, le lien entre la logique et la conversation ne me paraît pas évident, parce que je dirais que intuitivement, la conversation, celle que nous avons aujourd'hui, celle que j'essaie de mener chaque matin à ce micro, ne suit pas de logique. Précisément, la conversation serait l'espace où les règles de la logique ne s'appliquent pas forcément. Il y a d'autres règles qui peuvent s'appliquer.
Si les rapports logiques sont là, simplement, ils sont tacites. On ne les explicite pas à chaque moment. Et justement, dans Alice, par le fait d'interpeller sans cesse des bouts de raisonnement, là je suis d'accord avec vous, la conversation c'est des bouts de raisonnement, mais parfois c'est des raisonnements en raccourci et finalement ils sont complétés avant que l'erreur ne guette, parce que vous savez il y a beaucoup de raisonnements faux, et bien là on sent que le raisonnement au moment où il va déraper, hop, il est rectifié par l'interlocuteur d'Alice.
Mais on peut avoir une conversation sans raisonnement? Non.
Oh ben moi je pense qu'on raisonne tout le temps.
Ah bon?
Ah oui.
Même quand on dit n'importe quoi?
Oui, parce qu'en fait, quand on dit n'importe quoi, c'est qu'on est fâché avec le raisonnement, donc le raisonnement est encore impliqué.
Donc vous avez forcément raison?
Non, surtout pas.
Mais c'est très difficile d'avoir une conversation au sens fort du terme.
Ben écoutez, Proust disait qu'on était beaucoup dans le marché de la conversation, tout ce qu'il a pu entendre dans les salons parisiens, la mondanité qui fait que l'on dise les choses sans grand intérêt.
Ah, c'est ça la conversation.
Mais justement, il dit que il dénonce ce marché de la conversation. Comme Madame Verdurin dit en pleine guerre, venez manger des petits fours et on va parler de la guerre. Bon, ben il y a quelque chose d'indécent. En quelque sorte dans la conversation. C'est pour ça que beaucoup la rapportent au bavardage. Alors que moi, me semble-t-il, c'est l'exercice de l'oralité. Moi, je viens d'une société où l'oralité est très importante, où les femmes notamment exercent complètement leur jugement par ces raisonnements en raccourci que sont les proverbes et les adages dans lesquels elles ont été nourries. Et mon intérêt pour la philosophie du langage me vient, j'en suis persuadé, de la force orale et de ces proverbes, parce que dans ma famille, les femmes parlaient par proverbes.
Les femmes?
Les femmes, oui, les hommes n'ont aucun intérêt à... Ils ne développent aucun intérêt sur cette mémoire, présence immémoriale des proverbes. C'est très bizarre, la conservation des proverbes, ce sont les femmes. J'entends très rarement des hommes parler par proverbe, mais voilà. Et moi, je trouvais que c'était extraordinaire parce que justement, tout le raisonnement était en raccourci et conforté par des siècles de mise à l'épreuve de ces proverbes.
Mais la conversation, donc, n'est pas la discussion.
Non, c'est pas la controverse, c'est pas l'échange d'arguments. Ça fuse comme des balles de ping-pong.
Et donc là, que faisons-nous ce matin? Nous discutons ou nous conversons?
On peut à travers la conversation retrouver des éléments de la discussion, mais on ne discute pas vraiment parce que vous me présentez pas une thèse que je suis en train de réfuter. Donc nous prenons un vrai plaisir à manier des concepts en raccourci.
J'espère bien. Continuons en tout cas à converser ensemble, à Libène Maclou. Voici un. Si on s'approche de votre tête ou de votre cœur et qu'on tend l'oreille, eh bien on découvre ceci.
Que sera, sera. Whatever will be, the future's not ours to see, que sera, sera, what will be.
Deuxième couplet.
When I was just a child in school, I asked my teacher, what should I try?
Attrape.
Should I paint pictures? Should I sing songs? This was her wise reply.
Que sera, sera. Whatever will be. The future's not ours to see. Que sera, sera. Oops.
What will be, will be.
Voulez-vous m'accorder cette danse?
Oui.
Merci.
Dame, dame.
Vous dansez à ravir.
L'homme qui en savait trop, le film d'Alfred Hitchcock de 1956. Vous nous aviez conseillé cet extrait à Libène Maclouf et je ne m'attendais pas à ce qu'il vous émeuve autant.
Oui, c'est... C'est un film que je revois souvent et effectivement... Cette relation... du petit garçon à sa mère.
C'est en effet, là on entend la mère, c'est Joe, interprété par Doris Day, son fils Hank, Christopher Olsen, qui sont dans leur hôtel à Marrakech, juste avant que Hank ne disparaisse.
Voilà, c'est bon, c'est... Voilà, c'est... Vous savez, c'est ce que dit Montaigne, quand il parle de la Boétie, il dit... C'est vrai que ça fait 25 ans que la Boétie est morte, moi ça fait maintenant presque 17 ans que ma mère est morte. Et... Je peux pas nier, dit-il, que plusieurs pensées, il parle de cogitation, se sont interférées depuis la mort de l'être cher à maintenant. Mais quand je me mets dans cette pensée de la personne, c'est comme si ça avait survenu sur le moment. Voilà ce qui s'est à peu près passé. Je suis désolé.
Hein. Non, c'est moi qui suis confuse.
Non, mais voilà, on va reprendre le cours de la conversation.
C'est ça. Bah, comme quoi, parfois, elle s'interrompt de manière inattendue. Mais c'est la force. Est-ce qu'il y a quelque chose à voir avec le cinéma dans cette émotion? C'est-à-dire, c'est le fait parce que c'est un film ou c'est parce que c'est une relation de mère à son fils?
Non, 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 parce que c'est très didactique, Hitchcock. C'est très didactique, c'est-à-dire quand il donne tous les éléments pour comprendre. Et moi, ça m'intéresse à chaque fois que l'on puisse me donner les éléments pour comprendre. Alors, cette didactique de Hitchcock, je la trouve extraordinaire. Et ça marche à chaque fois, parce qu'à chaque fois, on se laisse prendre dans la manière de mener en crescendo une situation. C'est pas vraiment, moi je suis malheureusement pas très connaisseur en film, mais ça c'est une compétence que j'ai pas du tout développée. Et donc, comme vous voyez, je réagis au premier degré.
Parce que vous qui disiez que la philosophie s'intéressait à tous les domaines et qui avait écrit sur tant de domaines, oui. Vous ne vous êtes pas intéressé à l'esthétique, ou soit la musique, le cinéma, les images?
Ben écoutez, si j'avais fait un petit ouvrage intitulé C'est de l'art, mais il est passé totalement inaperçu, voilà, sur le tissage, parce que ouais. À 5 ans je voulais être couturier.
Ah bon?
Oui. Voilà, donc le tissage, je travaille avec les chutes des tissus que travaillait ma mère, parce que c'était son hobby. Et donc, voilà, vous êtes en train de m'allonger sur un divan, là.
Mais ça veut dire que vous travaillez beaucoup avec vos souvenirs, en fait.
Et le tissage conceptuel.
Ah, vous allez jusque-là.
Voilà.
Mais en fait, tout est déjà établi dans votre tête. Vous avez conscience de tout ça. C'est pas du tout inconscient, tout ce que vous nous dites. C'est même presque délibéré, non?
Non, parce que... Enfin, non, délibéré...
Je veux dire, le fait de puiser dans votre propre biographie pour vous nourrir dans votre travail.
Ben, je me suis rendu compte de certaines choses et autant les voir en face autant que possible. Voilà. J'espère n'être pas un symptôme ambulant, mais d'avoir reconnu des symptômes qui m'accompagnent. Donc, je préfère être accompagné de mes symptômes que de les vivre sans m'en rendre compte.
Le travail philosophique est compatible avec un travail analytique, par exemple?
Ah ben, bien évidemment, je vois pas du tout de contrariété. Je sais pas, je dois avoir un esprit asiatique. Moi, j'intègre tout, j'harmonise tout. À chaque fois qu'il y a un élément, j'essaie de lui trouver sa place dans une variété harmonique.
Ben, ce qui est plus difficile en psychanalyse, c'est qu'il y a jamais de vérité, vraiment.
Ben oui, mais vous savez, les vérités dont j'ai parlé tout à l'heure, les vérités logiques, elles sont très spécifiques. Elles prétendent pas à dire tout de tout. En tout cas, moi, elles m'ont aidé beaucoup pour m'intégrer dans la culture française quand je suis arrivé à 18 ans. Et je dis bien la culture française, je dis pas la société française. Ça fait 41 ans que je vis ici, je n'ai aucun accès à la société française.
Mais comment ça?
Eh ben, comme je vous le dis, je suis venu très content à 18 ans pour rencontrer la culture et la société. J'ai rencontré la culture, mais pas la société. C'est comme ça, hein. On va pas pleurer dessus ni se lamenter.
Mais qu'est-ce que ça veut dire? Vous n'avez pas rencontré la société. Vous êtes prof de philo à l'université de Paris-Est Créteil.
C'est pas la société, ça, c'est la fonctionnalité. C'est une fonction, mais la société française.
C'est quoi la société alors?
Ben, la société française, dans toutes ses ramifications, comment vous dire ça? Ça vient probablement du fait que j'ai pas fondé de famille en France, par exemple, voilà. C'est-à-dire les connexions, je les ai au Maroc, ici j'ai des connexions purement professionnelles, pratiquement, et quelques amis bien sûr, Mais ça fait pas complètement société.
Et vous l'expliquez comment?
Ah, je risque de me tromper en donnant une explication.
Essayez quand même.
Ben, je sais pas, j'ai eu un parcours à la fois facile parce que j'ai pu avoir faire ce que je voulais, et à la fois très difficile parce que le racisme est toujours là. Mais à chaque fois que je le dis, par exemple, dans la profession, depuis 40 ans, on me dit que j'imagine des choses et que je dois être complètement parano. Alors bon, là, tous les collègues qui m'écoutent, à qui j'ai pu rapporter des faits de racisme, vont encore dire, ah ben, c'est le numéro d'Ali. Que voulez-vous? Après, vous êtes... C'est ça la victoire du racisme. C'est que vous êtes enfermé dans la position de vous voir comme on vous voit. Et vous pouvez pas vous en dégager. Ce sont les raies du racisme. RETS. Voilà. On est pris. Dès lors que le racisme atteint toujours sa cible. Et quand vous en parlez, et ben vous paraissez pour quelqu'un qui se fait des idées.
Et vous pensez que vous n'avez pas eu accès à certains postes ou à certaines... Vous n'avez pas fait
ce
que vous
vouliez parce que...
À cause du racisme.
J'irai pas jusque-là. Mais par exemple, à 23 ans, on m'a contesté mon DEA en me disant « On sait que vous êtes marocain, qui a pu vous aider à rédiger ?» Par charité, je vais taire le nom du professeur qui a dit cela, en 83. Donc, comment vous faites quand vous présentez un travail et qu'on dit que c'est pas vous parce que vous êtes marocain? Comment vous faites? J'ai passé l'agrégation de l'année d'après pour dire qu'on peut rendre des copies anonymes et qu'on va pas aller vous chercher vos origines. Vive les concours! Mais avouez que quand même c'est une sacrée violence de devoir passer par l'anonymat pour se faire reconnaître comme Ali Ben Makhlouf.
Et ça n'a pas changé.
Et la logique c'est pareil, c'est ça que je voulais vous dire depuis tout à l'heure. Je me suis rendu compte après que j'ai foncé sur la logique, parce que c'était un langage par lequel on pouvait me reconnaître sans dire que c'est Ali Ben Makhlouf, puisqu'il parle de logique que si j'avais fait tout de suite du Montaigne ou si j'avais fait tout de suite Averroès. Averroès, ah ben oui, un arabe, il travaille sur les arabes, ou bien Montaigne, mais pour qui il se prend, Montaigne, ça appartient en français. Je vous le dis vraiment quand je parle avec vous.
Personne
brut
ne nous écoute,
brut de décoffrage. Voilà.
Mais d'où peut-être voilà, la déconstruction de la notion même d'identité. C'est une manière aussi de se défaire d'une assignation.
Non, mais j'ai mis 30 ans à avouer mon amour pour la langue française, puisque j'ai publié mon livre sur Montaigne en 2008. Pendant 30 ans, j'ai pas osé le dire. Et j'ai mis 20 ans à travailler sur Averroès. Et donc, pendant les 20 premières années en France, il fallait faire de la logique pour me faire accepter. C'est pas parce qu'on m'a mis cette injonction, c'est parce que je me la suis mise comme ça, pour me dire, c'est la seule manière d'arriver à être accepté. Voilà. Et je sais que maintenant, que ce parcours de logique, alors que j'aimais beaucoup les mathématiques, a aidé à mon insertion dans la culture française.
En entendant les guillemets. Et en 30 ans, vous pensez que rien n'a changé ?
C'est pire.
C'est pire ?
Ah ben bien évidemment. Je pense que c'est pire. Mais je n'aime pas... Ça, il y a cette phrase terrible de Montaigne. Ce que je trouve malsain, n'est-ce pas pour être moi-même malsain? Je vous ai dit depuis tout à l'heure qu'on est victime, que quand on est victime du racisme, le fait d'en parler, vous êtes dans les marais croulants qui vous emportent. C'est pour ça que le racisme est quelque chose de très grave. Ça réussit toujours contre sa cible.
Et vous essayez de lutter contre? Comment on fait pour lutter contre
le racisme? Évitement vital. Évitement vital. Quand, à l'université de Nice, le doyen me traitait de marchand de tapis, je ne répondais pas. Mais je ne vais pas aligner ces choses-là, Adèle Fenret. Je ne vais pas les aligner. Parce que les auditeurs, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire encore un frustré qui ne reconnaît pas les bienfaits de la France.
Laissons-les réagir comme ils l'entendent.
Oui, bien sûr, ils ont leurs droits, mais beaucoup de collègues ont vu ça avec commisération.
Est-ce que vous voulez qu'on passe la parole à Bachelard ?
Par exemple.
Les ministres travaillent deux jours. Il vit dans une chambre sombre, quand l'esprit perd sa fraîcheur, son mordant. Les ministres ont coutume de prendre un court sommeil dans son fauteuil. Mais, nous dit-il, ce sommeil est si profond que l'esprit en sort tout neuf, à nouveau aiguisé.
Gaston Bachelard qui raconte comment Leibniz avait coutume de prendre un court sommeil dans son fauteuil avant d'écrire. Est-ce que vous avez des rituels d'écriture, Ali Ben Makhlouf ?
Le matin et durant l'été. Et pendant l'année, je fais mes cours, mais quand même mes cours, tous mes livres ont quand même été des chantiers de cours. Ah oui, vraiment, je n'écris pas un livre que je n'ai, d'une manière ou d'une autre, enseigné et transmis d'abord.
Donc votre travail commence en cours,
oui.
Et à partir du travail de
et
ces cours,
et se prolonge en écriture, oui. Très souvent, c'est comme ça. Oui, très souvent, c'est comme ça que ça s'est fait.
Donc c'est d'abord oral.
C'est d'abord oral, et ce que j'ai appris en enseignant, merci les étudiants, ce que j'ai appris en enseignant est beaucoup plus riche et plus important que ce que j'ai appris sur les bancs de l'école. Ah oui, j'ai beaucoup appris avec mes étudiants, en préparant pour eux, en découvrant pour eux, en les faisant travailler. J'adore mes étudiants, j'adore mon métier. Alors, disons quand même des choses positives, j'adore mon métier.
Et est-ce que vous adorez...
C'est la 35e année d'enseignement.
35 ans ?
Eh ben oui, ah oui.
Vous n'en avez pas marre ?
Non, il n'y a que le corps qui lâche parfois quand j'ai 3 heures de cours de suite. J'ai un peu... Ouais. Mais j'aime beaucoup ce métier. J'aime beaucoup ce métier. J'aime beaucoup le... Oh ben je me répète là.
Est-ce que vous aimez autant écrire qu'enseigner ? Est-ce que c'est un plaisir d'écrire ?
Pas, oui, mais ce n'est pas du tout le même plaisir. Il y a un côté zombie quand j'écris. Je suis complètement dans des consécutions linguistiques qui me déconnectent beaucoup. Alors que l'enseignement me connecte beaucoup. C'est pas du tout le même plaisir. Il y a un plaisir à la déconnexion comme il y a un plaisir à la connexion humaine. Humaine, hein, je parle pas de la connexion numérique, etc. Tout ce qu'on développe aujourd'hui. Moi, j'aime la connexion humaine, j'aime la conversation humaine, j'aime être avec les gens. C'est ça qui m'intéresse.
Mais alors pourquoi avez-vous autant écrit? Vous auriez pu faire vos cours et vous contenter de faire vos cours. Pourquoi leur donner la forme de livre ensuite? Parce que vous avez beaucoup écrit.
C'est vrai, parce que je vous ai dit, c'est quand même un plaisir très différent de ce... Et puis le plaisir de la mise en forme. Parce que quand on fait un cours, il y a des choses qui sont laissées tacites, il y a des choses implicites, il y a des choses que... Et là, de remettre en forme, c'est comme revoir mon cours en raccourci. Moi, j'aime bien tout ce qui est raccourci, vous savez. Les raisonnements en raccourci, le cours en raccourci. J'aime bien, j'aime bien. C'est une chanson de Dutronc. Tout est mini dans notre vie, hein, voilà. Voilà. Par exemple.
Le raccourci, ça s'oppose à quoi? Au détour? À la broderie?
le raccourci, non, c'est le flash qui résume tout en un instant. C'est magnifique. C'est des proverbes que j'ai entendus dans mon enfance. Ah oui, oui. Ah, oui. Ces proverbes sont extraordinaires. Oui.
Alors voici une phrase très courte, de 12 secondes, prononcée par quelqu'un que vous avez rencontré, qui je crois vous est cher et qui avait une question à vous poser. Écoutez la question, vous nous direz qui c'est ensuite.
Ali, je voulais te demander... Nous, et pas seulement moi, mais tout notre groupe, on a été fascinés par ton cerveau de philosophe. Et pourquoi je me dis tout le temps que tu aurais voulu être médecin?
Alors qui venons-nous d'entendre?
Marie-Germaine Bousser, elle est extraordinaire.
Qui ça?
Marie-Germaine Bousser, c'est la grande neurologue de la Riboisière. C'est une femme. Alors ça, moi, effectivement, j'ai découvert les sciences de la vie et de la santé tard, en 2008. Et si je les avais découvertes avant, j'aurais commencé des études de médecine.
Ah oui, à ce point. Donc elle avait raison.
Ah oui, vraiment, je trouve ce métier extraordinaire. Mais du coup, nous, on est en belle complémentarité. Vous voyez, ces 10 dernières années, j'ai travaillé avec les médecins et ça a été un pur bonheur. On a rendu des avis ensemble. C'était un pur bonheur. C'est des bonheurs de travail collectif que je n'ai jamais eu avec les philosophes, qu'ils me pardonnent en m'écoutant aujourd'hui. Mais là, l'écriture en commun d'un avis avec les médecins, actuellement, là je sors ce matin et j'y retourne tout à l'heure de l'Académie nationale de pharmacie qui m'a nommé membre correspondant, eh bien on finalise un avis sur la vaccination avec Agnès Brouard, Henri Lepage, Raphaël Moreau, etc. Et là, au comité d'éthique, les 8 ans avec Marie-Germaine, c'était un pur bonheur. Honneur de travail.
Donc
en
c'est
commun
le comité consultatif national d'éthique.
Pour les sciences de la vie et la santé.
Voilà.
Et donc, dans les deux cas, le comité et l'académie, je suis tout à fait en phase avec ces esprits scientifiques que sont les médecins et les pharmaciens. Totalement en phase. Et là aussi, j'ai l'impression que la logique mathématique que je faisais beaucoup autrefois s'y retrouve pleinement, parce que c'est la méthode scientifique qui est toujours à chaque fois engagée. Et moi, j'aime comment la philosophie accompagne cette méthode scientifique.
Mais alors, comment justement le fait-elle? Quel est le rôle de la philosophie dans la pratique de la médecine telle que vous l'avez ou au sein du comité consultatif?
Bien, là, il faudrait presque demander aux médecins et aux pharmaciens qui me disent à chaque fois qu'ils ont... je vais pas dire ce que je leur apporte, ça serait complètement présomptueux de ma part, mais ils pensent que je leur apporte quelque chose par une réflexion sur, par exemple, les perplexités éthiques, les dilemmes qu'arriver à dire que qui greffer en premier? Vous pouvez avoir des raisons objectives qui débouchent sur des choix contraires et d'arriver à expliquer ce que c'est qu'un dilemme. Eh bien, les médecins comme les pharmaciens sont très contents d'avoir ce type de présentation parce qu'ils y font face tous les jours. Et la grande difficulté de ces métiers-là, c'est qu'ils sont beaucoup dans le tacite et très peu dans l'explicite. Et moi, comme j'ai presque une maladie de vouloir tout expliciter, eh bien, ma foi, ça marche bien. Voilà, ce point de vue-là. L'explicitation des pratiques et l'éthique, pour moi, est de part en part intégrative des démarches logiques d'explicitation.
Mais rien n'est plus difficile que de trancher un débat éthique.
Oui, bien évidemment, mais de pouvoir reconnaître aussi qu'il y a des questions ouvertes est très très important.
Alors, on va prendre un cas particulier, c'est Laurent Wauquiez qui le soulève.
Oui.
Oui, c'est un engrenage. Et cet engrenage mènera nécessairement à la marchandisation des gamètes. À l'image de ce site internet danois, Krios, que vous devriez aller voir. La plus grande banque de sperme du monde, où vous pouvez sélectionner si vous voulez qu'il ait la peau blanche ou mate, si vous voulez que ses yeux soient bleus ou verts, si vous voulez que ses cheveux soient roux. À l'arrivée, le panier d'achat aura juste remplacé le caddie d'Amazon par un landau, mais c'est la seule différence.
Voilà, c'était Laurent Wauquiez à Asnières le 18 novembre 2018 devant le mouvement Sens Commun, qui décrit avec ces termes un danger possible d'une forme de manipulation génétique. Ce sont des questions que j'imagine que vous vous posez au sein du comité.
Mais bien évidemment, mais justement, notre démarche, si je puis dire, n'a jamais été celle-ci. Notre démarche n'a jamais été d'aborder les innovations technologiques par leurs dérives. Dans ce cas-là, il n'y a plus d'éthique. Si l'éthique est là précisément pour souligner les dérives, les scientifiques vont tous vous dire pourquoi vous allez limiter notre travail. Ça ne veut pas dire que tout est permis. Ça veut dire qu'il y a un croisement des disciplines, le droit, l'anthropologie, pour faire bref, pour les sciences humaines, et la médecine. Et ce qui résulte des trois, c'est ça nos avis, c'est ça qui faisait que nos avis étaient très importants. Et on a fonctionné beaucoup de manière hypothétique et catégorique. Si pas de loi, alors effectivement dérive. Si loi, comment? Avec dérogation. Si loi, encadrement strict, alors, etc. Donc, si vous voulez d'idéologiser complètement cette question des gamètes, il y a toujours l'eugénisme, il y a toujours la sélection, c'est complètement éculé. C'est pas comme ça que travaillent les scientifiques. Qu'il y ait des dispositifs commerciaux qui prennent appui sur les innovations technologiques pour faire valoir du commerce sur Internet, etc., certainement, mais vous n'allez quand même pas prendre les dispositifs commerciaux comme indication de ce que sont les innovations techniques.
Mais c'est l'argument qui revient le plus, y compris dans les débats qui est actuellement autour de la PMA, par exemple, la méfiance à l'égard de l'innovation technologique.
Mais on peut pas,
c'est ce qui terrifie.
Parce qu'il y a, malheureusement, le savoir scientifique est terriblement discrédité de nos jours, parce que le flux d'informations sur Internet les gens pensent que ce flux d'informations suffit, mais ce flux d'informations, il faut totalement le distinguer du savoir validé, et le savoir validé n'a pas voix au chapitre si facilement. Prime l'idéologie, prime la propagande, prime des solutions toutes faites, contrairement aux questions toutes ouvertes dont vous avez parlé tout à l'heure. Et bien précisément pour cette PMA à indication sociétale, c'est effectivement la même chose qui est mise en avant.
Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous disent, mais si on autorise ça, alors du coup c'est la porte ouverte à la toute-puissance technologique, le corps humain ne sera plus rien, le transhumanisme, etc.
Mais oui, mais ça, c'est, si vous voulez, c'est des fantasmes autour de l'autorisation. Et c'est pour ça qu'après, on fait des interdictions telles qu'on ne permet plus à la recherche de se faire. Regardez les pays anglo-saxons. D'abord, ils disent oui à la recherche. D'abord, autorisation. Et puis après, encadrement strict. Eh bien, voilà. Nous, je vous donne juste cet exemple. Quand, avec Marie-Germaine Bousser, on a rendu l'avis sur l'IRM fonctionnel et Yves Agide sur l'IRM fonctionnel, on a dit, attention, elle est ouverte au domaine du droit, c'est-à-dire qu'un avocat peut présenter une IRM comme une photographie au tribunal, et ça a été possible en 2011, mais nous sommes arrivés en amont de la loi en disant, attention, si elle est ouverte aux recherches judiciaires et pas simplement aux recherches biomédicales, il faut encadrer ces recherches juridique pour que, par exemple, on ne puisse montrer une IRM que dans le cas d'un dommage objectif avéré, mais pas pour des suspicions à la violence, des suspicions à ceci ou à cela, la criminalité, etc. Or, le législateur ne nous a pas suivis, il n'a même pas suivi l'OPEX, l'Office parlementaire de l'évaluation des choix scientifiques et techniques, en disant qu'il fallait ouvrir aux droits l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, l'ouvrir au droit, certes, mais par encadrement pour le limiter aux dommages avérés et objectifs. Et ça a été l'autorisation tout azimut. Et c'est pourquoi, quand on dit autorisation, c'est autorisation pleine? Pourquoi on ne la sortit pas d'encadrement? Donc, si vous voulez, quand vous regardez au plus près des choses, vous vous rendez compte que la limitation arrive sur des situations précises, non pas pour penser que l'éthique est là que pour limiter, mais non plus pour penser que l'éthique ne peut aborder les innovations que par leurs dérives.
Mais ça dit quelque chose de la peur que nous avons aujourd'hui à l'égard de notre propre corps humain, comme si on voulait le sacraliser. Et en fait, il n'y a pas de juste milieu entre d'un côté la marchandise et de l'autre la sacralisation.
Oui, mais la marchandise ressortit plus à une société du profit et de la marchandise reine, mais c'est pas du tout comme ça que les scientifiques travaillent. Les scientifiques travaille avec l'imprévisibilité de la recherche, au sens de Platon. Si je cherche ce que je sais déjà, pourquoi le chercher puisque je le sais déjà? Si je cherche ce que je ne sais pas, comment saurais-je que c'est ce que je cherchais quand je l'aurais trouvé? Et donc, en fait, il y a une imprévisibilité de la recherche qu'il faut respecter. François Jacob l'avait dit dans les années 70. Et cette imprévisibilité de la recherche, il faut l'honorer. Elle n'a rien à voir avec la marchandisation des corps. Elle n'a rien à voir avec le profilage génétique sur Internet. Voilà. Et la génomique, c'est un magnifique domaine, la recherche sur l'embryon est un magnifique domaine, mais arrêtons de mettre sur ces grandes innovations la lunette de la marchandisation pour en parler. Et moi, j'ai beaucoup appris auprès des scientifiques chez qui j'ai trouvé le doute s'exercer beaucoup plus que chez les philosophes. Moi, je trouve qu'on est beaucoup plus dogmatique. Beaucoup plus dogmatique.
On, c'est Marie, les philosophes.
Oui. Ah oui. Des gens comme Marie-Germaine Bousser, elle n'arrête pas de dire « je ne sais pas ». Elle vient d'avoir le prix de la Fondation Lundbeck, Brain Prize, le prix du cerveau pour la maladie qu'elle a découverte, l'artériopathie cérébrale autosomique dominante avec infarctus sous-cortico et leucoencéphalopathie. Donc ça, c'est des gens extraordinaires, mais elle n'a rien à voir avec la marchandisation. Elle a dévoué toute sa vie à l'hôpital, voilà.
Donc apprendre à dire « je ne sais pas », ce serait un effort à faire de la part des philosophes ?
Exactement.
La bonne réponse aurait été « je ne sais pas ». On se quitte, vous l'avez cité, Jacques Dutronc ?
Oui.
Eh bien, on l'écoute.
Voilà.
France Culture, les chemins de la philosophie, Adèle Van Rijt.
Petit, petit, petit. Tout est mini dans notre vie. Mini moque et mini jupe. Mini moche et lilliput. Il est mini docteur Schweitzer. Mini mini ça manque d'air. Mini jupe et mini moque. Miniature de quoi je me moque. Ministère et terminus, minimum et minibus. Petit, 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 tout est mini dans notre vie. Mini moque et mini jupe, mini moche et lilliput. Il est mini docteur Schweitzer, mini, mini, ça manque d'air. Mini, mini, mini. Mini, 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 mini. Moi je préfère les maxi. Maxi moque et maxi jupe. Maxi moche et maxi pute. Il est maxi docteur Schweitzer. Maxi, maxi, ça respire l'air. Maxi terre et terre maxus. Maximum et maxibus, maxister et terre maxus.
Merci beaucoup Ali Ben Maclouf d'être venu nous parler de votre travail aujourd'hui.
Merci, je crois que c'était un pur tourbillon et pas tout à fait un travail organisé.
Le tourbillon de la vie, comme le chant de Jeanne Moreau, on parlait de François Truffaut cette semaine. C'était un vrai plaisir de vous recevoir.
Merci beaucoup.
La liste de vos ouvrages sera en ligne sur le site des Chemins de la Philosophie.
Merci beaucoup.
Sur France Culture, les Chemins de la Philosophie, il est temps de retrouver le journal de la philo avec Géraldine Mosna-Savoie.
On n'est pas là pour philosopher, Carpentier.
Quand même. Incroyable.
Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous.
Comme tous les vendredis, vous nous proposez ce matin votre anti-manuel de philosophie.
Et oui, après être zen, prendre le temps ou carpe diem, je m'attaque aujourd'hui à l'idée de positiver.
Le oui a besoin du débat pour gagner. Win, the yes, needs a no to win. Again, the no.
La positive attitude.
La positive attitude, c'est de faire face, c'est de regarder droit devant, dit-elle. C'est d'assumer. Et quand ça va mal, de surmonter.
Un état d'esprit positif, la parentalité positive, la discrimination positive, rien n'échappe aujourd'hui au positif. Le dernier événement en date a été le défilé d'une centaine de mannequins atypiques dimanche dernier à Paris pour célébrer le mouvement du body positive, qui prône la diversité physique contre les normes esthétiques. Positif est ainsi devenu un label, garant de bienveillance et d'ouverture, censé redorer nos comportements négatifs. Cette tendance n'est pas du tout neuve. Laurie chantait la positive attitude en 2004, Jean-Pierre Raffarin, alors Premier ministre, la reprenait en 2005, et si on remonte à ses sources, comme j'ai essayé de le faire, on peut découvrir que la pensée positive, courant initié par le pasteur américain Norman Vincent Peale, date des années 50, et a connu un bond au début de notre siècle avec les théories du développement personnel. D'où Laurie donc, et puis Raffarin. Ce qui m'a frappé avec cette tendance constante à positiver, c'est que l'on ne cesse en revanche de nous rappeler à quel point on est malheureux. Au lendemain du défilé Body Positive, Le Monde livrait ainsi son analyse d'une grande enquête réalisée auprès des Français qui révélait que cela était pessimiste sur l'avenir et sceptique sur leurs dirigeants. Pas de positif sans négatif et inversement, ça paraît presque évident.
La négativité dans la vie, c'est vraiment très mauvais parce que ça nous empêche d'avancer, ça nous empêche d'être heureux et on voit tout en noir. C'est un peu comme si on pataugeait dans la boue et que même si on saupoudrait cette boue de pépites d'or, et ben on les voyait pas parce qu'on fait que patauger, remuer la boue et du coup on cache ce qui peut être très précieux et ce qui peut être vraiment des sources de joie.
D'un côté la boue et de l'autre les pépites d'or, d'un côté le noir, de l'autre la lumière, d'un côté le négatif, de l'autre le positif. Voilà ce qui est terriblement simple avec l'idée de positiver. Cette idée qu'il suffit de renverser les choses, de les retourner ou de leur opposer leur contraire pour qu'elles deviennent autre chose ou meilleures qu'elles-mêmes. Mais comment être positif? Ça veut dire quoi positiver? Eh bien en mettant le doigt dans la positivité, je ne pensais pas tomber dans un tel océan de dictons, de références, de disputes aussi. Alors j'ai bien sûr mis de côté le positivisme philosophique d'Auguste Comte qui entendait substituer des lois scientifiques à nos croyances, et j'ai découvert qu'il fallait distinguer la pensée positive, pseudo-scientifique, tous les articles insistent là-dessus, de la psychologie positive, qui elle ne se contente pas de rendre les choses bonnes, comme par magie, mais veut renforcer les émotions positives présentes en chacun de nous. Positiver, c'est donc un vaste champ qui a occupé pas mal de penseurs, avec la pensée positive qui promeut le positif contre le négatif, et la psychologie positive qui part du positif pour donner du positif. C'est sûrement une grande différence, mais je dois dire qu'elle m'a un peu dépassée. J'ai essayé de me mettre en condition, j'ai tenté de transformer les choses négatives en choses positives, et j'ai tenté de me concentrer sur le positif pour plus de positif, mais les deux ont eu le même effet, c'est-à-dire me ramener toujours et encore vers le positif, comme si c'était là où il fallait de toute façon aller.
Je vais vous parler aujourd'hui de parentalité positive. La parentalité, c'est comment je suis moi, parent, avec mon enfant. Et parentalité positive. Positive, c'est quoi ce mot-là? Positive, eh bien, ça veut dire qu'on va être complètement orienté vers le positif.
Complètement orienté vers le positif. Et pourquoi? Eh bien parce que c'est positif. On l'entend dans cet extrait, le positif, c'est tautologique. Mais pourquoi c'est positif? Eh bien l'étymologie de ce terme nous dit que c'est ce qui est posé, conventionnel, établi. Aller vers le positif, c'est donc aller vers ce qui est communément admis. Positiver, c'est donc établir, encore une fois, renforcer ce qui est déjà là et forcément considéré comme bon. Être positif revient ainsi à réfléchir le monde sous un bon angle, mais sans avoir à le changer. On est clairement dans l'empire du bien, pour reprendre l'expression du philosophe Philippe Muret, qui s'auto-produit, qui s'auto-proclame, qui s'auto-justifie lui-même contre le négatif. Jamais d'entre deux, jamais de nuance. Je ne suis pas non plus pour défendre l'échec ou la douleur comme l'envers lucide de la bien-pensance du positif, mais je me demande, est-il possible de ne pas être positif sans être négatif?
Et ben la question est lancée. Merci Géraldine, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Et merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aide chaque jour à préparer cette émission. Aujourd'hui, Manon de la Selle avec Isis Jourda, Géraldine Mosna-Savoie, Jules Barbier, Anaïs Isbert, Thomas Beau qui a réalisé pour vous cette semaine, à la prise de son aujourd'hui et au jonglage Jean-Frédérics. Je vous donne rendez-vous lundi prochain pour une nouvelle série des Chemins de la Philosophie. On se posera une question, faut-il ou non tuer Freud? Et ce sera l'occasion d'évoquer quatre grandes figures de la psychanalyse indépendantes du freudisme qui en ont hérité ou qui parfois l'ont contesté. Françoise Dolto, Jung, Mélanie Klein et Félix Guattari. D'ici là, pour écouter cette émission en compagnie d'Ali Ben Maclouf, cette série qui précédait sur François Truffaut, c'est très simple, vous vous rendez sur le site de France Culture à la page des Chemins de la Philosophie. Vous pouvez réécouter chaque émission en ligne ou bien la télécharger, la podcaster pour l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. L'équipe des Chemins vous donne également rendez-vous sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, où on sera ravis de répondre à vos questions et à vos commentaires. Rendez-vous lundi donc à 10h.
Mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.